Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la mémoire, bienvenue à Radio Courtoisie et bonjour Philippe Palazzi, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Anne-Colin.
Vous êtes docteur en héraldique, membre de l'école doctorale, vous êtes professeur je crois à l'école pratique des hautes études, vous avez enseigné l'héraldique à l'école du Louvre pendant de nombreuses années, expert auprès de la cour d'appel. Bref, vous êtes spécialiste d'héraldique et vous publiez aux éditions Archives et Culture un livre qui a attiré mon attention, « Lire le blason, lire l'histoire, apprendre l'héraldique par la pratique », un petit ouvrage en termes de pages, à peu près 150 pages, d'une qualité iconographique. On imagine combien ce sera nécessaire dans un livre consacré à l'héraldique, avec un texte passionnant, une préface de Michel Pastoureau. Et l'objectif de votre ouvrage, vous allez nous le préciser, mais c'est d'essayer de faire comprendre à des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, mais que cela intéresse, ou bien qui seraient curieux, tout simplement, et il en existe, heureusement, ce qu'est ce monde dont je vous ai dit en plaisantant, mais que c'était un petit peu pour moi comme la mythologie. Il faut être obélix et être tombé dedans petit pour dépatouiller, mais vous allez nous montrer le contraire.
Bien, j'espère réussir, je vous remercie. Je ne suis pas professeur à l'école pratique, hein, je suis juste à l'école doctorale pour diriger des recherches, si ça se présente. Alors, d'abord ce petit travail appartient à une collection, les guides de généalogie, qui est une collection qui est assez connue du monde des généalogistes et des historiens, et qui donne les outils en archives, essentiellement pour retrouver sa parenté ou ses ancêtres. Alors, la directrice de la collection a souhaité un volume sur les armoiries que les généalogistes rencontrent, d'une façon assez large d'ailleurs, parce que en faisant des recherches sur ses ancêtres, on trouve avec une relative fréquence des armoiries, même si ces armoiries ne sont pas réservées à la noblesse, c'est ce qu'il faudra retenir. Donc, ce travail, richement illustré, comme vous l'avez dit, se veut un manuel pour apprendre l'héraldique. Donc, je l'ai voulu en trois parties. Une première partie consacrée à l'histoire de l'héraldique, son apparition, son développement dans la société à l'échelle de l'Europe. Puis une partie technique qui est absolument indispensable, bien sûr, la bibliographie, la cytographie pour se rendre sur Internet, et puis une partie glossaire, le vocabulaire avec les illustrations, et enfin des exercices pour ceux qui ont bien assimilé les 140 premières pages. Il y a des exercices avec la réponse un peu plus loin, comme chez les cruciverbistes. Donc, voilà comment se présente matériellement l'ouvrage. Il y a en tout 400 illustrations couleurs.
Alors, je vais commencer peut-être, Philippe Palazzi, par vous poser des questions d'ordre effectivement de vocabulaire. On va filer vers la troisième partie, même si vous allez voir, je vais rester au beu à bas du glossaire. Mais il y a deux mots que l'on entend utiliser. On a l'impression l'un pour l'autre et l'un et l'autre. C'est héraldique et héraldisme. Et en plus, dans héraldique, ce mot a le malheur d'être à la fois un adjectif et un nom. Alors, qu'est-ce que l'on doit dire? Comment doit-on utiliser ce ou ces mots?
Alors, bon, je vais faire l'enseignant. Héraldisme est à proscrire. Il apparaît entre les deux guerres. C'est un néologisme. Voilà, il n'est dans aucun outil sérieux, mais on le trouve encore chez certaines notices de commissaires-priseurs, mais il a été véritablement évacué du monde de la recherche. Donc, effectivement, héraldique est au départ un adjectif, et puis il va se substantiver, donc devenir un nom commun. même s'il garde sa qualité d'adjectif. Donc, je recommanderais héraldique, alors que le mot blason, qui est sur la couverture, normalement, est réservé au langage. Donc, si on dit le blason héraldique, c'est synonyme de le langage héraldique, donc avec sa partie technique et son blasonnement, justement.
Et alors, vous êtes un spécialiste de l'héraldique ou vous êtes un héraldiste ?
Je ne vois pas très bien où est la frontière entre les deux.
Mais les deux mots peuvent s'utiliser ?
Oui, c'est-à-dire qu'on a considéré, jusqu'à ce que Michel Pastoureau relance les études sur l'héraldique, via sa formation de médiéviste à l'école des Chartes, héraldiste, on l'employait plutôt pour l'artiste qui peignait, qui sculptait, qui gravait. On disait un héraldiste, voilà, c'était plutôt le caractère matériel D'accord. de la représentation.
Ah oui.
Donc aujourd'hui, on dira d'abord ce que l'on veut, et d'une part, et d'autre part, je crois que nous avons réussi à donner aux mots une amplitude plus importante que le simple technicien de l'héraldique.
Alors, quelle est la différence entre le blason et l'armoirie ? Là aussi, on a l'impression qu'on emploie communément, et certainement à tort, les deux mots pour désigner la même chose.
En principe, le mot blason devrait être réservé au langage, à la description, d'où le verbe blasonner. Maintenant, il peut y avoir des superpositions. Armoirie, sous l'Ancien Régime, dans les inventaires ou dans les textes, on trouve le mot armoirie à égalité avec le mot arme. On dira il y avait une orfèvrerie à ses armes ou une tapisserie à ses armes. Mais on trouvera aussi avec les armoiries de Monseigneur. Les deux se retrouvent. Mais évidemment, le mot arme, qui n'est pas... qui est synonyme aussi d'armement, et ça n'est pas une grande rupture, c'est une certaine logique si on considère le monde militaire dans lequel, en partie, naît l'héraldique. Donc, bon, il vaut mieux employer arme ou armoirie. Maintenant, si on dit blason, c'est compris par une plus grande part de la population plutôt qu'armoirie.
Mais l'origine du mot armoirie est une origine commune avec le mot arme.
Oui.
D'accord. Et est-ce que, pardon de vous poser des questions qui vous paraissent peut-être évidentes, en tout cas dans les réponses vous paraissent évidentes, mais est-ce parce que l'usage premier des armoiries est un usage militaire ou est un usage sur des armes que les deux mots se confondent ?
Oui. Un usage d'équipement militaire, que ce soit au combat et plus fréquemment en réalité lors des tournois, des joutes. L'essentiel des grands équipements que nous connaissons dans les armoriaux, je pense à l'armorial équestre de la Toison d'Or, ce sont des personnages reconstitués pour une part fictivement. Effectivement, dans les tournois, il y avait les grandes tenues héraldiques et on pense, en tout cas c'est ce que pense Michel Pastoureau, que ça a eu un rôle accélérateur, ces tournois. Maintenant, les armes apparaissent probablement en premier sur des textiles, les bannières, puis glisseront ou se dupliqueront sur le bouclier. Voilà, donc évidemment, le contexte militaire est premier.
Alors, vous l'avez dit, Philippe Palazzi, dans votre livre « Lire le blason, lire l'histoire, apprendre l'héraldique par la pratique » aux éditions Archives et Culture, vous avez conçu votre ouvrage en trois parties et une première partie est historique. Elle est passionnante, elle a une iconographie et des illustrations vraiment magnifiques. On aurait envie de prendre page par page tellement tout ce qui est dit est intéressant, mais on va résumer évidemment pour nos auditeurs. L'apparition donc de ces premières armes, armoiries, est une apparition qui est médiévale et qui est dans un univers que l'on va qualifier du monde occidental. Ça n'est pas réservé à la France, ce n'est pas un phénomène franco-français, c'est un phénomène du monde occidental et du monde médiéval.
Absolument. Ça apparaît. Alors d'abord, ça se construit, hein, bien sûr, ça n'apparaît pas spontanément du jour au lendemain. Nous avons des documents qui ne sont pas si fréquents de différentes natures, des textes, la célèbre broderie de Bayeux, qui est justement un document extrêmement important, mais où nous ne pouvons pas parler d'héraldique parce qu'il n'y a pas transmission des armes et il n'y a même pas caractéristique d'un bouclier ou d'un décor de bouclier sur la longue durée. En fait, ils échangent, comme sur tous les champs de bataille, il y a énormément de récupération. Donc, si on peut récupérer un haubert, une broigne, un bouclier pas trop abîmé, on va le récupérer. Alors vous imaginez que si c'est le camp adverse, il vaut mieux pas que ça identifie le personnage. Donc là, nous sommes donc vers après 1066, vers 67, 70, on restreint un peu la fourchette. Donc là, on peut pas parler, on parle de para-héraldique, bien sûr, sur ces grands boucliers en amande. Et puis, probablement, autour de 1120, 1130, c'est toujours en débat, nous remarquons les premières empreintes de sceaux avec des éléments franchement héraldiques, c'est-à-dire qui seront repris de génération en génération. Alors, il y a des débats d'érudits, des dessins, des empreintes. Parfois, la matrice est utilisée par... La matrice du père est utilisée par le fils. Alors, ça pose des difficultés de chronologie. D'autre part, on peut avoir une matrice et puis s'en servir sur la longue durée. Donc, si la dernière empreinte est de telle date, ça ne signifie pas forcément que les armes sont de cette date. Et puis, il faut encore écumer un certain nombre de documents, mais on voit bien trois origines. C'est l'idée de Michel Pastoureau. On voit bien trois origines. Une origine individuelle, un choix personnel. Une origine familiale, puisque ça naît en même temps que les patronymes. Donc c'est fortement identitaire et pas véritablement réservé. C'est réservé à aucune classe sociale, même au début. Mais ceux qui en ont l'usage ou le besoin, c'est plutôt le monde des combattants. Et enfin, une origine féodale, probablement encore plus accentuée dans des régions comme l'Espagne. Donc il y a un lien entre... une marque héraldique et un territoire. Voilà, on sait que parfois des bannières ont été données à un vassal avec des éléments héraldiques dessus. Donc trois origines qui vont se fondre pour donner le système actuel, mais avec toujours, au travers de ce qu'on appelle les emblèmes ou les badges, une liberté de pouvoir faire des choix à caractère individuel. C'est-à-dire que les armoiries deviennent une transmission sur le lignage, donc ça c'est figé, entre guillemets, bon, c'est pas tout à fait figé parce qu'il va y avoir 1000 combinaisons, mais à côté, il y a des systèmes, celui des emblèmes en particulier, à partir du 14e ou 15e siècle, qui sont des sortes de soupapes. C'est-à-dire qu'à côté de la rigidité de la transmission d'un emblème, il va y avoir la liberté d'adopter un autre motif qui est plus personnel, qu'on pourra d'ailleurs aussi transmettre. C'est un système extrêmement souple. Il n'y a aucune autorité en matière héraldique, ou plus tard, et pas dans tous les pays. Mais par exemple, le cas de la France ou de l'Italie, il n'y a aucune autorité qui ordonnait les armoiries. Ce sera en Angleterre un peu plus tard, mais sinon c'est la plus grande liberté, chacun, au même titre que le patronyme finalement, on peut adopter tel ou tel nom parce qu'il nous convient, ou bien même vous le recevez des autres, suivant la vision qu'ils ont de vous. Et donc, voilà, mais il faut retenir cette liberté.
Cette liberté, elle a, elle s'arrête à un moment. Enfin, y a un moment dans l'histoire, en tout cas en France, où les noms sont enregistrés, où les...
Oui, ils se fixent. Ils se fixent,
d'accord.
Oui, oui. Mais vous avez encore...
Et les armoiries, je ne sais pas, je me souviens d'avoir travaillé lorsque je faisais encore mes études d'histoire... En utilisant le fameux dosier là, que Louis XV, c'est sous Louis XV, hein,
Louis XIV.
À Louis XIV. Eh bien, dosier a fait ce travail pour fixer.
Il a fait ce travail avec un but fiscal. Ah. Il s'agit de prélever. Pour les particuliers, un enregistrement obligatoire de 20 livres pour les individus. Donc des commis en ont donné à beaucoup d'individus. Il y a eu des résistances parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il y avait besoin d'une police d'armoirie. C'était un impôt individuel, un impôt intéressant parce que 1696, c'est un an après 1695. Et 1695, c'est la capitation, c'est-à-dire un tarif qui, d'impôt par tête. Et c'est une grande nouveauté par rapport à... Je dirais, en employant un terme moderne, auparavant, la fiscalité qui n'était pas par tête, mais qui était une enveloppe globale pour un village, une généralité. Donc, on parle beaucoup de dosier parce qu'il y a un peu plus de 110 000 noms de famille, mais ça n'a été... Alors, c'était soi-disant coercitif, mais en réalité, il n'y avait personne pour vérifier. Il s'agissait d'enrichir le trésor. D'ailleurs, ça n'a pas fonctionné du tout. Le fermier qui a pris à ferme cet enregistrement n'a pas eu les résultats qu'il souhaitait.
En tout cas, il en est resté un très beau, un très bel ouvrage.
Un très beau document, une grande série de manuscrits et surtout beaucoup d'informations sur les individus, leurs fonctions. Et ce qui est intéressant, c'est que de 1696, enfin c'est novembre 1796, à 1709, quand s'arrête l'enregistrement, nous avons une image, une photographie de la société. Alors, pour certaines armoiries qui vont disparaître, donc on a de l'information pour les armes au début du XVIIe siècle ou même au XVIe siècle qu'on ne connaissait pas et qu'on ne reverra pas. Et puis parfois des armes adoptées que l'on va voir survivre au XVIIIe, voire au XIXe siècle.
Alors, Philippe Palazzi, je rappelle aux auditeurs que vous êtes historien de l'art, que vous êtes docteur en héraldique et que vous publiez aux éditions Archives et Cultures, Lire le blason, lire l'histoire, apprendre l'héraldique par la pratique. Vous avez introduit tout à l'heure un autre mot, toujours pour essayer d'être clair auprès de nos auditeurs, qui est celui de sceau. Alors, on connaît le professeur Alambic dans le sceptre d'Ottokar, qui est expert en sigillographie, qui est l'étude des sceaux, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'est le sceau par rapport justement au blason, à l'armoirie, à l'emblème? C'est l'outil par lequel on fabrique l'armoirie?
C'est quantitativement et qualitativement le premier support des armoiries. Comme les armes apparaissent à l'époque médiévale, le sceau est une marque d'identité, il atteste de la présence d'un individu qui est témoin ou qui passe un acte. Et donc, ces sceaux sont extrêmement importants. Il y a des dizaines de milliers d'empreintes qui, hélas, ne sont pas toujours parfaitement conservées. Mais je vous ai parlé tout à l'heure des premiers sceaux vers 1120-1130 pour l'apparition des armoiries. Pour nous, c'est absolument capital parce que lorsque le sceau est encore appendu à son document, nous avons une datation, il y a une légende autour du sceau. Alors, son seul point de déficit, ce sont les couleurs, voilà, qui manquent, mais on peut les compléter par la suite des armes utilisées après de génération en génération. Donc cet aspect de la couleur, eux-mêmes connaissent bien le problème, c'est-à-dire qu'ils ont un sceau avec des armes qu'ils ont choisies ou qu'on leur a soufflées, parce qu'on ne sait pas très très bien ce qui préside, on ne sait quasi pas ce qui préside au choix de telle ou telle marque. On a quelques idées, mais c'est encore très lacunaire et probablement pour encore beaucoup de décennies. Donc, c'est le motif qui va permettre de reconnaître ou de s'emblématiser au travers d'un lion. Enfin, il y a cette maxime connue, qui n'a pas d'armes porte un lion. Donc, évidemment, lorsque vous êtes devant des armes avec juste un lion, vous êtes certain, s'il n'y a pas d'autres informations, d'être dans le noir absolu.
Alors, en fait, bon, vous nous avez parlé donc du support textile, du support du bouclier, là, du sceau en cire, j'imagine, hein, oui. Essentiellement. Ensuite, il va y avoir le sceau comme le tampon, enfin...
La matrice, on appelle la matrice, c'est-à-dire ce qui permet de faire des empreintes.
C'est ça, voilà. Qui permet...
Sceau est un terme général. Alors, les spécialistes utilisent le mot de matrice pour l'objet lui-même, et puis d'empreinte pour le produit de la matrice.
D'accord. Et alors, progressivement, l'univers, on va dire, social des personnes qui ont besoin d'avoir un blason, d'avoir une armoirie, est-ce qu'il s'amplifie ou au contraire, est-ce qu'il se restreint? Parce que de nos jours, j'imagine que si on interroge quelqu'un d'un petit peu cultivé quand même, et qu'on lui parle d'armoirie, il associe ça inévitablement à la noblesse d'Ancien Régime. Éventuellement, il peut savoir qu'il y a eu une noblesse d'Empire et un peu sous la Restauration, mais schématiquement, il va dire noblesse d'Ancien Régime. Or, d'abord, on le sait très bien, les villes continuent toutes d'avoir des armoiries. Donc, ça a survécu à la Révolution française. Et puis, on sait bien que même pendant la période médiévale, chaque commune, municipalité, corporation...
Les femmes, les ecclésiastiques, tout le monde peut porter des armoiries. Il n'y a absolument aucune restriction puisque c'est une marque identitaire figurée. Voilà. Donc, on peut avoir un nom aussi. Bien sûr, il y a toujours la question de ne savent ni lire ni écrire. Alors, c'est une marque figurée qui va donner de l'identité. C'est grandement vrai, mais il faut nuancer, comme à chaque fois en histoire, et en particulier en histoire médiévale. Ça s'élargit considérablement. Les petites statistiques qu'a fait Michel Pastoureau, c'est pour le monde de l'Europe de l'Ouest, ou même le monde occidental, 1 million d'armoiries au Moyen-Âge et 10 millions à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un phénomène absolument considérable. Notre histoire française l'a un peu réduit, vous l'avez dit, comme une marque de noblesse, ce qu'elle n'a jamais été, avec une petite parenthèse sous le Premier Empire, nous en reparlerons. Mais c'est extrêmement large, la bourgeoisie l'utilise, et alors dans des zones géographiques telles que le Royaume-Uni, l'Italie médiévale, tous les marchands, les patriciens des villes italiennes ont leurs armes qui décorent les palais municipaux. C'est extrêmement, extrêmement courant. Hein, 10 millions d'armoiries, vous imaginez le phénomène que ça peut représenter à travers l'Europe. Donc, c'est vrai qu'en France, à Paris en particulier, il y a eu beaucoup de dégradations. Mais si vous visitez des églises qui sont les armoriaux monumentaux, vous retrouvez beaucoup d'armoiries pourvu que vous ayez un peu l'œil. C'est extrêmement présent. Alors si vous promenez en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Suisse, dans le monde germanique ou scandinave, en Belgique, aux Pays-Bas, c'est pas lié du tout encore à la forme politique d'aujourd'hui. C'est simplement un reflet de l'usage d'une société dans le monde occidental.
Alors, pour dédouaner quelque peu la République, pour une fois, de ces volontés d'amalgame entre la noblesse, l'aristocratie, l'Ancien Régime, et donc là, nous parlons d'héraldique, donc des armoiries, je pense que certains ont contribué après la Révolution française, et essentiellement avec la monarchie de Juillet, à associer ces blasons familiaux aux grandes familles des croisés. Quand vous voyez la salle des croisades de Louis-Philippe, ou quand vous voyez à Carthage la cathédrale de Tunis, qui est une construction tardive, hein, puisque ça date de la fin du 19e, enfin du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, toutes les familles se représentent en plus dans un langage qui se veut un peu de caste. On se connaît uniquement en regardant son blason, on n'a même pas besoin d'écrire son nom, et on y était.
C'est le but, de ne pas avoir besoin d'écrire son nom. Mais vous voyez, même dans les sceaux médiévaux, on donne la légende, le nom du personnage et sa fonction. Donc, il faut être très nuancé. Sous Louis-Philippe, la salle des croisades a un dessein politique. Il s'agit de rassembler tout le monde des légitimistes, nous dirons. Louis-Philippe commande cette très belle salle néo-gothique qui est le démarrage du néo-gothique. C'est une période à laquelle je m'intéresse, même juste avant. C'est-à-dire, que se passe-t-il à la chute du Premier Empire ? Donc, ça m'amène à parler du Premier Empire, et même un peu avant, parce qu'en fait, en France, l'héraldique subit de plein fouet deux grands phénomènes qui vont lui être extrêmement nocifs. L'esprit des Lumières, hein, l'article dans la Grande Encyclopédie concernant l'héraldique est absolument mordant, en disant que ça ne sert à rien, que c'est féodal. Donc ça a beaucoup marqué les esprits.
Il faut dire que si on est taxé parce qu'on a des armes, généralement on n'a pas très envie de payer quand même.
Oui.
Mais la raison n'était pas là.
Non, la raison n'était pas là. C'était que les Lumières essaie de détruire le monde féodal pour créer un nouveau monde, celui des Lumières, exactement au milieu du XVIIIe siècle. Donc, c'est extrêmement mordant, le texte contre l'héraldique. Mais ils disent lui-même, mais c'est tellement utile que nous sommes néanmoins, en attendant que ça s'effondre, nous sommes néanmoins dans la nécessité d'expliquer le fonctionnement. Il y a de très belles planches et c'est très bien fait. C'est très bien fait, l'encyclopédie, la grande encyclopédie. Bon, et en même temps, c'est l'expulsion des jésuites. Et les jésuites ont été le grand vecteur de l'enseignement de l'héraldique dans leur collège. Et ils sont, dans ces années 56-57, ils perdent leur collège. Et donc, l'enseignement de l'héraldique disparaît avec. Alors, les communautés religieuses qui vont essayer de reprendre les collèges vont tenter de poursuivre un peu cet enseignement parce que ça permettait d'avoir des liens avec les élites municipales qui mettaient leurs enfants dans les collèges. Donc, nous le voyons, il y a de très belles planches des exercices, ce que l'on appelle à la fin de l'année des exercices qui sont conservés au collège de Juilly, maintenant aux archives départementales de Seine-et-Marne. J'en ai reproduite dans mon ouvrage sur les jeux de cartes héraldiques. Donc, voilà, ils sont expulsés, plus les Lumières, et finalement, et aussi un schéma que j'ai pu mettre dans mon livre sur les éditions de traités d'héraldique, on voit que la seconde moitié du XVIIIe siècle, il n'y a plus que des rééditions, plus personne ne s'intéresse véritablement au sujet. Donc, quand arrive l'année fatale et le mois fatal de juin 1790, finalement, il n'y a plus grand défenseur, on ne s'y intéresse plus en France, alors que dans tous les autres pays, ça continue d'être vivant. Donc, voilà, on les abolit au même titre que la livrée.
Racontez quand même peut-être cette abolition des armoiries en juin 1790, parce que peut se demander quand même si on n'avait pas d'autres chats à fouetter dans une période qui était logiquement une période de réforme fiscale pour sauver le royaume de la banqueroute.
Mais il s'agissait, on attaque ce qui n'a pas de défenseur, ce qui est facile à annuler. Alors, il y a les titres, bien sûr, les livrets. Il y a et puis arrive le jeune Montmorency qui dit ah ben si on supprimait les armoiries, alors il y a quelques défenseurs qu'il faut faire attention, et en particulier s'esquisse déjà le mouvement de défense des monuments et des œuvres d'art. Necker dit mais c'est libre, personne vraiment il voit ça d'une façon peut-être helvétique. C'est porté par tout le monde, on voit pas très bien pourquoi les supprimer. D'autres disent attention, Virieux en particulier dit attention, il faudra pas abîmer des monuments. Et donc il va y avoir tout de suite d'ailleurs un décret qui sera pris pour ne pas abîmer les monuments et les œuvres d'art, pour les conserver. Il y a tout un mouvement immédiat qui se crée. Donc il y a des dégradations, on peut en voir un peu partout en France, on gratte les armoiries, on les cancelle, on les bûche, tous les adjectifs que vous voudrez liés à la suppression. Et puis, alors ce qui est à hauteur d'homme, hein, parce que comme c'est la banqueroute, il n'y a personne pour payer un échafaudage pour aller détruire un vitrail et surtout le remplacer, parce qu'il y a un coût. La destruction, c'est, on pourrait dire, gratuit, mais la reconstruction, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut monter un échafaudage pour détruire une clé de voûte, éventuellement, voilà. Donc, ou des litres seigneuriales. Alors là, on est en plein dans les Lumières, bien sûr. Donc, finalement, c'est supprimé et il va falloir attendre le Premier Empire, 1808, pour la recréation du système héraldique sous Napoléon.
Alors, avant qu'on parle, si vous le voulez bien, Philippe Palazzi, de la période de l'Empire et puis de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, nous allons nous interrompre un tout petit instant pour une annonce de Radio Courtoisie, mais je voudrais revenir sur la question des livrets, parce que là aussi, leur interdiction va avoir des conséquences, et c'est vrai que les livrets étaient portés par toute une domesticité, avec des ustensiles ou des broderies de reconnaissance. Il n'y avait pas que les couleurs, il y a les boutons, il y a des grands collectionneurs de boutons de livrées. Donc il y a les boutons qui portent des armes, et puis il y a même parfois les broderies, vous donnez dans votre livre...
Les galons.
Ah, les galons, d'accord. Vous donnez dans votre livre une photo de la livrée de Talleyrand que l'on peut voir au château de Valençay, et puis un détail d'un bouton de livrée également de Talleyrand. Les gens étaient habillés comme ça, c'était leur tenue.
C'était leur tenue de travail, leur bleu de travail. Et justement, au moment de la suppression des livrées, parce que c'est attaché, il y a un prêtre qui dit « Oui, mais attention, c'est souvent leur seul vêtement. Vous supprimez la livrée, mais... Il faut réfléchir à cela. » Bon, en fait, on ne réfléchit pas, on fait un paquet titres, armoiries, livrées, des signes où il n'y a personne pour défendre, finalement, c'est assez facile.
Quand j'étais en Cagne, oui, en Hippocagne, j'étais en Hippocagne à Chaptal, et j'avais un professeur d'histoire qui, à l'époque, il y avait encore des grands tableaux noirs avec la craie, et qui nous montrait la féodalité en faisant plein d'ensembles, vous savez, un peu comme les mathématiques modernes, là où les ensembles se retrouvent entrecoupés les uns les autres, et puis il prenait une éponge et il nous disait « la Révolution française, c'est ça », et il effaçait tout le tableau. Alors, c'était schématique, mais c'était assez facile à comprendre. Et là, comme vous le dites, on fait un gros paquet, on enlève tout. Bon, sans réfléchir véritablement aux conséquences du « on enlève tout ».
Il ne faut pas oublier qu'un grand nombre, j'ai parlé de Montmorency, mais il faut penser qu'un grand nombre de membres de l'aristocratie sont des fers de lance de la Révolution. Ils sont parmi les premiers, alors je ne parle pas du duc d'Orléans, bien sûr, mais ils souhaitent modifier la société avec évidemment l'influence, le modèle anglais. Donc voilà, les armoiries n'y sont pas plus attachées. Bon, il y a évidemment les conservateurs qui trouvent qu'on ne va pas abîmer leurs monuments, mais beaucoup de membres de la haute aristocratie sont des soutiens de la Révolution, en tout cas jusqu'à une assemblée qui pourrait définir la place du roi, bien sûr.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, aujourd'hui au Mardi de la Mémoire, je reçois avec beaucoup de plaisir Philippe Palazzi, historien de l'art, spécialiste d'héraldique et auteur aux éditions Archives et Culture d'un ouvrage « Lire le blason, lire l'histoire, apprendre l'héraldique par la pratique ». Alors, l'Empire va créer, on le sait, une noblesse d'Empire à laquelle va être attachée toute une héraldique, et une héraldique donc là qui est proprement attachée à une caste, enfin elle est exclusivement nobiliaire.
Alors, les spécialistes réfutent de temps en temps le terme de noblesse d'empire, parce qu'au départ elle n'est pas héréditaire, il faut remplir un certain nombre de conditions, avoir formé un majorat pour transmettre, bon ça devient un petit peu compliqué, pour transmettre son titre et ses armes. Et les armes, pour lesquelles nous manquons d'ailleurs d'informations sur la commission qui a travaillé, le Conseil du Sceau, qui a travaillé, nous avons deux, trois noms, dont un qui avait suivi les cours d'héraldique de Juilly, justement. Souvent, la carrière militaire, plus de 60% de ceux qui reçoivent un titre de l'empereur sont des soldats qui ont fait les campagnes de Napoléon. Et les membres de l'administration, et c'est une héraldique très normée avec des marques. J'ai reproduit les marques spécifiques suivant la place dans la société. On a supprimé le titre de marquis qui faisait trop ancien régime, donc il n'y a que des barons, des comtes, et puis après des ducs qui sont très peu nombreux. Donc il est rigoureusement interdit de porter d'autres armes, sinon il y aura confiscation du support, alors que ce soit de l'orfèvrerie, une portière de voiture hippomobile ou autre. Et donc c'est très très figé, très très figé. Alors ça a l'avantage, lorsque on vous demande d'identifier des armoiries, d'avoir un taux de réussite très très élevé, parce qu'il existe des outils pour identifier ces armoiries. Alors il peut y avoir des modifications si par exemple du titre de baron on a reçu un titre de comte par la suite.
Mais juste une parenthèse, Philippe Palazzi, pour bien comprendre, c'est agrégé, on parlait tout à l'heure de la volonté de Louis-Philippe de s'assurer le soutien des légitimistes lorsqu'il fait sa salle des croisades. Napoléon va avoir une politique d'assimilation de la noblesse d'Ancien Régime qui lui est restée fidèle, en tout cas en termes de serviteurs de l'État. Mais qu'en est-il justement de ces familles qui possédaient des armoiries, on va pour faire simple, d'Ancien Régime, et qui sont au service de l'État impérial? Ils changent d'armoirie, ils conservent leurs anciennes armoiries, ils font enregistrer leurs anciennes armoiries pour avoir le droit de continuer de les porter?
Alors, il y a plusieurs cas. Certains vont faire abstraction, enfin vont faire la commission du sceau, en réalité, parce que je vous dis, je n'ai pas encore trouvé, et nous n'avons pas encore trouvé de traces de correspondance pour les individus qui vont recevoir un titre et des armes. Donc, quand on fait une analyse, on retrouve, pour une bonne part, ceux qui avaient des armes sous l'Ancien Régime, on retrouve leurs armes sous la forme d'un écartelé, donc divisé en quatre, avec une partie qui relate leur carrière, mais qui relate aussi les armes qu'ils possédaient auparavant. Parfois des changements de couleur, parfois des petites altérations, mais on reconnaît. On les reconnaît. D'ailleurs, finalement, Napoléon est assez heureux de tous les grands noms. Il essaie d'attirer, vous le savez, il essaie d'attirer à son service des grands noms, qui sont parfois des cadets. C'est toute l'histoire des cadets depuis le Moyen-Âge, qui veulent s'associer à ce nouveau régime. Et puis, voilà, en 1815, le régime chute et arrive la Restauration et Louis XVIII, qui donc, on le sait, dans la charte de 1814, utilise ce terme, l'ancienne noblesse conserve, retrouve ses titres et la nouvelle conserve les siens. Donc, hors de question de supprimer la Légion d'honneur, hein, c'est évidemment d'une grande intelligence politique, et puis elle n'est réservée à personne, comme d'ailleurs quasiment l'ordre de Saint-Louis ou de Saint-Michel, il n'y a plus de notion de noblesse. On relance les ordres royaux, le Saint-Esprit, Saint-Michel, et bien sûr le célèbre ordre de Saint-Louis qui est... à l'origine du motif et la couleur aussi de la Légion d'honneur. Donc, on va tout porter. C'est la réouverture, la réoxygénation, entre guillemets, de la société, avec beaucoup de souplesse, parce que la situation politique est extrêmement délicate. Hein. Ça fait 25 ans que l'Ancien Régime a disparu. Il y a eu de nombreux bouleversements. Et voilà, et donc ça se passe, il n'y a plus aucune interdiction, plus aucune réserve. D'ailleurs, beaucoup de familles vont aussi créer des armoiries, enfin, surtout sous Napoléon III d'ailleurs. Et sous Louis-Philippe, les choses se poursuivent. Bon, il chasse beaucoup la fleur de lys, Louis-Philippe, puisqu'il change les armoiries d'État. Des trois fleurs de lys avec le lambel en... la charte de 1830. Donc, voilà, ça se passe naturellement. Sous Napoléon III, bien sûr, retour, la société reconnaît et connaît un dynamisme économique, de nouvelles élites apparaissent, font construire des châteaux nouveaux. Il y a énormément de châteaux du 19e siècle. Hein, ça a bien été étudié, ces élites, par Éric Mansion-Rigaud. Et voilà, donc on adopte des armes, on en relève éventuellement, mais il y a beaucoup de nouvelles armes dans les milieux de la finance, de l'industrie, et ça redevient dynamique. Mmh. Et les boutons de livrée sont là, cette merveilleuse collection qui est à 9 volumes et probablement un 10e qui va sortir, qui manquait complètement à la France. Ce sont des milliers de boutons de livrée, un véritable armorial métallique du 19e siècle. C'est extrêmement intéressant comme travail.
Mmh. Oui, parce qu'alors, on va avec vous, Philippe Palladi, puisque vous êtes expert en héraldique, parler tout de même de la situation actuelle et de l'attrait pour l'héraldique, qui est un attrait à la fois historique, artistique, et puis également en termes de valeur et de marché de l'art, puisque il n'y a pas un objet qui n'a pas sa version avec des armes. Et j'imagine que le fait que cela possède des armes, c'est une valeur supplémentaire. On voit bien un couvert, on dit chiffré aussi, hein, quand il est armorié.
Chiffré quand il y a des initiales.
À des lettres et armorié quand il a des armes. Donc, on voit bien la valeur supplémentaire de ces objets. Alors, est-ce que vous voudriez peut-être, pour nos auditeurs, leur parler justement de ce marché de l'art, quel est l'intérêt que vous voyez dans les ventes, dans les objets qui passent, comment on expertise tout ça, enfin.
Alors, il y a d'abord les collections publiques qu'il ne faut pas oublier dans les musées en province ou à l'étranger, au Louvre. Vous avez là de très grandes œuvres d'art qui comportent des armoiries encore subsistantes ou qui ont été effacées à un moment ou à un autre. Alors là, c'est une belle enquête parce que l'objet est généralement d'une très grande qualité, ce qui signifie que le commanditaire a un certain statut social, de par, non pas par ses armes, mais par l'objet lui-même, bien sûr.
On l'a vu très récemment avec l'exposition au Grand Palais de ces fameux tapis de la Galerie du Roi qui présentaient tous les armes de France, les armes de Navarre et pour certains, les lettres de République française parce qu'ils avaient eu des utilisations à l'Élysée, ou enfin ultérieures en tout cas, jusqu'en dans des périodes très récentes d'ailleurs.
Hein. Oui, oui. Oui, oui. Donc ça, pour les armes du roi, c'est un petit peu moins compliqué. Pour les princes, avec la très belle exposition sur le comte d'Artois au château de Maisons-Laffitte, c'est vraiment identitaire, possession. Alors en France, on a un peu oublié, ce qui n'est pas dans les autres nations, on a un peu oublié le côté ornemental et décoratif. Hein, la forme d'écu, par exemple, de l'écu, bouclier ou cartouche, comme on voudra, c'est un motif ornemental. Ça fait partie des grammaires ornementales. Donc, on va mettre à l'intérieur ou bien des choses familiales ou bien des choses personnelles. Les grandes plaques funéraires, comme vous en voyez à Cluny ou un peu partout dans les églises, ont des emplacements creusés qui attendent qu'on rajoute les armes. C'est-à-dire qu'elle est préfaite. Les clés de voûte, c'est la même chose. Il n'y a rien sur la clé de voûte. Elles existent et puis on va les peindre aux armes en attendant qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien assumer la construction de la chapelle latérale pour une famille. Donc, voilà, c'est une forme décorative. On l'oublie trop, peut-être à cause de notre tradition d'histoire de l'art et du classicisme. Dans les pays baroques, l'héraldique est utilisée comme un outil décoratif. Donc, pour revenir aux collections publiques et au marché de l'art, c'est ornemental dans un premier temps. Donc, on voit tout de suite, on reconnaît tout de suite les armes. Hein, n'importe quelle personne, que ce soit un commissaire-priseur, un stagiaire, un expert, il voit tout de suite qu'il s'agit d'armoiries. Il voit quand ce sont des initiales, et là, c'est quasiment perdu d'avance, sauf s'il y a une tradition liée à l'objet. Pour les armes, eh bien, ça apporte l'histoire et le parcours de l'objet. Donc, ça va enrichir, pour être pratique, ça va enrichir la notice du catalogue de la vente aux enchères. Donc, des gens vont s'y intéresser avec des outils comme Drouot.com ou interenchères.com. Si vous mettez des alertes, même un nom propre, hein, s'il y a un nom propre qui sort, vous êtes ravi de pouvoir acquérir ou documenter une recherche. Ça arrive aussi pour les étudiants. Donc, et on ne sait jamais très bien s'il n'y a pas un petit-fils qui a un nom commun, entre guillemets, je dis Martin ou Dupont ou Durand, qui n'a pas une grand-mère qui soit née d'un grand nom de l'histoire. Et puis, il n'y a pas que les grands noms, il y a tous ceux qu'on peut découvrir dans leurs activités jusqu'au 19e, voire au 20e siècle. Je me promenais dans le cimetière du Père Lachaise, comme tous les touristes étrangers. C'est le troisième lieu de visite à Paris, où vous avez un grand nombre de chapelles armoriées, même encore une très belle chapelle toute récente, magnifique aux armes d'Ornano. Voilà, une création qui a peut-être une vingtaine d'années, très moderne, très belle, avec les armes. Voilà, ça va replacer, permettre d'enquêter, de savoir qui était le personnage ou autre. Et puis des industriels, des financiers, voilà, c'est le reflet de la société et qui décore, qui donne leur identité et qui en même temps décore le support. Donc, les commissaires-priseurs sont de plus en plus sensibles. Alors, ils subissent certaines études, les traditions familiales dont il faut se méfier, même si parfois il y a un petit fil ténu qui se rapproche de la vérité. Mais une analyse objective permet de remettre les choses en place. Et puis, il y a parfois de très bons objets. D'ailleurs, dès qu'un objet est de qualité et qu'il est armorié, généralement, ils se posent la question et ils peuvent me contacter et faire des découvertes, écrire un texte. Ça bonifie le résultat de la vente. Il faut être très clair, que ce soit pour le vendeur ou que ce soit pour le commissaire-priseur qui vit avec un pourcentage. Donc, meilleur est le résultat et mieux c'est. Maintenant, ça n'est pas toujours fait parce que une grande partie du marché de l'art et des ventes aux enchères est absorbée par le monde des marchands et les commissaires-priseurs n'ont pas toujours le temps de faire la recherche ni forcément la volonté, et ils considèrent que c'est peut-être le marché qui fera la recherche de son côté.
Alors, dans votre livre, Philippe Palazzi, Lire le blason, lire l'histoire aux éditions Archives et Culture, que ce soit vous dans votre introduction ou bien Michel Pastoureau dans sa préface, vous montrez tout de même que depuis quelques années, vous avez cherché à sortir l'héraldique d'une image, d'une passion d'érudit ou d'une nostalgie du passé. Il vous avait dit qu'avant, il y avait des cours. Hein. On a d'ailleurs vu dans l'exposition à Versailles consacrée au Grand Dauphin tout un jeu de cartes qu'il avait pour...
C'est moi qui l'ai fait acheter par le musée de la carte à jouer, à Issy-les-Moulineaux.
Ah, il est magnifique, hein, ce jeu de cartes. C'est vraiment...
Le jeu de Finet de Briandville, tout à fait. Oui. C'était ma thèse de doctorat, donc
d'accord.
Ils m'ont exposé.
Ouais, ah, oui, c'était vraiment très, très, très beau. Et alors, qui s'intéresse de nos jours? Qui suit des cours? Qui cherche à se former? Vous avez un public varié
Oui, un public varié. Donc, il n'y avait rien en cours du soir, donc j'ai enseigné une vingtaine d'années à l'école du Louvre, donc c'était les cours du jour, et on ne pouvait pas créer un cours du soir, donc nous avons créé avec Michel Pastoureau un cours du soir, il est le président d'honneur de l'association, qui diffuse donc à partir de 18h, et ça va même jusqu'à 22h, un cours en présentiel le mercredi et en distanciel via Teams le jeudi. Donc il y a une série de 10 séances pour le présentiel, première année, deuxième année. Hein, il faut quand même rentrer dans l'image. J'invite aussi des conservateurs, des universitaires qui viennent parler d'un problème héraldique qu'ils ont rencontré. Donc, on peut écrire à association.heraldica, hein, heraldica en latin, H-E-R-A-L-D-I-C-A, association.heraldica@gmail.com, et nous enverrons le très beau programme qui est prévu pour la rentrée d'octobre, qui sera axé cette année sur les ordres de chevalerie, donc Saint-Michel, Saint-Esprit, ou des conservateurs du Louvre, des chercheurs viendront parler. Donc, ceux qui suivent les cours, eh bien, il y a du monde du marché de l'art, des jeunes clercs chez les commissaires-priseurs, des historiens de l'art ou des étudiants de Paris 1, de l'école du Louvre, qui viennent compléter leur cursus ou qui viennent me poser une question. C'est gratuit pour les étudiants jusqu'à 25 ans en histoire et histoire de l'art, parce que c'est une matière qui est à cheval entre l'histoire et l'histoire de l'art. Il faut être clair. Et puis, des curieux. Il y a beaucoup de médecins, quelques médecins, des vétérinaires, des gens, on ne sait pas très bien qui s'y intéresse. On peut pas véritablement faire une typologie. Bon, il y a quelques membres de la noblesse qui viennent, qui s'inscrivent, mais beaucoup d'étudiants, et donc c'est tout à fait satisfaisant parce que ça signifie que dans leurs travaux à venir, enfin présents ou à venir, ils sauront que l'héraldique, il y a quelqu'un éventuellement pour les aider, mais ils sauront qu'il faut en traiter, en tout cas. On ne peut plus passer en disant il y a des armoiries et ne pas consacrer un chapitre, même si on n'y arrive pas. Il faut les noter, c'est ce que je dis. Lorsque j'ai participé au catalogue de l'orfèvrerie du musée du Louvre, là, un très gros travail en trois volumes. Parfois, j'ai réussi à identifier, mais parfois, j'ai juste blasonné, c'est-à-dire décrit les armoiries pour que des successeurs, un jour, trouvent une meilleure piste et les outils se développent. Moi, j'ai créé, avec l'ISEP, j'ai créé un site qui permet d'identifier pour ce que j'ai pu mettre dedans, hein, parce qu'il n'y a pas 10 millions d'armoiries, justement. On peut interroger à partir du moment où on connaît le langage héraldique. Hein, c'est incontournable. C'est comme les 100 mots d'informatique. Hein, vous lirez aucun mode d'emploi si vous n'avez pas fait l'effort d'acquérir un peu de vocabulaire. Et puis un ami belge a travaillé sur la reconnaissance d'images. Mais c'est un outil extrêmement précieux parce qu'il y a des millions d'armoiries, mais c'est toujours la question des grands nombres, hein, comment faire le tri parmi des centaines de réponses. Et là, là il y a toujours cette question de la formation. Et donc, voilà. Et en distanciel, ça fonctionne très très bien, en particulier ceux qui n'appartiennent pas à l'univers parisien, qui ne peuvent pas se déplacer, donc ils suivent... Ils suivent via Teams le cours pour préparer tel ou tel diplôme ou poser telle ou telle question ou peut-être le plaisir d'écouter de l'histoire de temps à autre avec aussi des intervenants. Alors j'ai des Espagnols, des Italiens et j'ai des traducteurs qui en live nous donnent le contenu de leurs propos. Donc ça s'internationalise et via Teams, c'est très sympathique. C'est évidemment le fruit du Covid.
Hein, bien comme sûr, beaucoup. Mais alors vous venez de prononcer le mot « ça s'internationalise » juste dans la petite minute qui nous reste. Est-ce que c'est un... On a parlé hein, de ce phénomène européen, du monde occidental, du monde féodal. Si je regarde plus à l'ouest vers les États-Unis ou très à l'est vers la Chine et le Japon, ces civilisations ont connu un phénomène ou connaissent un phénomène héraldique ?
Alors, les États-Unis, c'est, je dirais, la traversée de l'Atlantique par l'Europe de l'Ouest. Même chose en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, bien sûr, l'Espagne et le Portugal. Au Japon, il y a les mots, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un ensemble de figures, de dessins, souvent des végétaux, pour les familles, mais ça n'obéit pas du tout aux mêmes règles. Donc, on a parlé d'héraldique japonaise, mais parce que ce sont des figures qui représentent une famille. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon.
Merci beaucoup, Philippe Palassy. Vous nous avez transporté dans un univers codé. Lire le blason, lire l'histoire, apprendre l'héraldique par la pratique aux éditions Archives et Culture, merci beaucoup de ce que vous nous avez appris ce matin et chers auditeurs de Radio Courtoisie, à mardi prochain.
Merci de m'avoir invité.
Au revoir.
D'entendre les mardis de la mémoire créés par Pierre Chaunuet, dirigé par Anne Collin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 24 février 2026 de 10h à 11h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.